Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux, moi et mon équipe, d'être parmi vous aujourd'hui dans le cadre de cette Assemblée générale pour vous faire, bien sûr, pour voter les résolutions à l'ordre du jour, mais aussi pour faire le point d'activité sur 2020 et les perspectives 2021. Tout d'abord, ça ne vous aura pas manqué, nous réalisons pour la seconde fois consécutive une Assemblée générale à huis clos. Nous en sommes vraiment désolés de subir, parce que pour nous, on serait tellement plus heureux de vous avoir en présentiel pour avoir des échanges constructifs avec nos actionnaires qui nous sont fidèles depuis des années. Mais lorsqu'on a préparé l'Assemblée générale au mois de mars, les conditions sanitaires ont fait qu'il était préférable de maintenir cette Assemblée générale à huis clos. Donc, je vous propose d'ouvrir cette assemblée générale et, comme d'habitude, nous devons désigner un bureau et cela démarre par la désignation de scrutateurs.
Ça vous aura pas
Donc,
manqué. Nous réalisons pour la seconde fois consécutive une assemblée générale à huis clos. Nous en sommes vraiment désolés de subir, parce que pour nous, on serait tellement plus heureux de vous avoir en présentiel pour avoir constructif avec nos
Donc,
actionnaires.
je propose de désigner comme scrutateur
Général au mois de mars.
deux salariés ici présents avec moi dans la salle, à savoir Madame Manuela Falampin, respectivement en charge du business développement de la société, et Monsieur Antoine Darbois, que la plupart connaissent. Directeur financier du groupe Metex. Donc ensuite, il faut désigner aussi un secrétaire. Donc je propose d'élire, de nommer, pardon, de désigner Madame Catherine Pennec, secrétaire générale de la société ici présente aussi comme secrétaire du bureau, et donc constater que le bureau est normalement constitué. Enfin, juste les commissaires aux comptes qui ont été régulièrement convoqués à cette assemblée générale, est-ce qu'ils ont pu se connecter sur la web conférence, à savoir Monsieur Emmanuel Chavanel, représentant du cabinet Mazars, et Monsieur Yann Claverie, représentant du cabinet Escot.
Oui, on vous le confirme. Oui, on est là.
Merci. Maintenant, en termes, pour rappel, pour pouvoir délibérer des résolutions en assemblée générale ordinaire, en assemblée générale extraordinaire, nous devons rassembler respectivement 20% des actions donnant droit à un vote pour l'assemblée générale ordinaire et 25% des actions donnant droit à un vote pour délibérer de l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire. Donc, pour rappel, la société jour d'aujourd'hui a 29 998 460 actions. Donc cela veut dire que pour pouvoir délibérer en assemblée générale ordinaire, nous devons rassembler 5 999 692 actions et à titre extraordinaire 7 499 615 actions. Donc le décompte des présents ou des votes par correspondance montre que le quorum, que ce soit pour l'assemblée générale ordinaire ou pour l'assemblée générale extraordinaire, a été atteint. Donc, puisque nous avons rassemblé 27,30% du capital en action, qui donne un droit de vote d'un peu plus de 30%, à savoir 30,24% du nombre total de voix précisément. Donc, ces quorums étant atteints, l'Assemblée peut normalement délibérer à titre ordinaire et extraordinaire sur l'ordre du jour qui vous a été envoyé. Donc, je m'abstiens de préciser l'ordre du jour, on le verra plus tard, pour être très clair. Ensuite, je tiens à souligner que l'ensemble des rapports ont été mis à disposition des actionnaires pour pouvoir délibérer. Et ça a été remis en même titre que la convocation à l'Assemblée générale. Donc là aussi, je vais m'abstenir de faire la lecture exhaustive de l'ensemble des rapports, puisque, comme vous le savez, il y en a plusieurs dizaines. Donc ceci étant dit, je vous propose maintenant de faire le point sur l'activité de la société, sur l'exercice 2020 et sur les perspectives 2021. Donc, tout d'abord, sur ce transparent, vous pouvez voir que l'équipe constituée d'Antoine Darbois, directeur financier, Catherine Pennec, secrétaire générale, de moi-même, président, directeur général de la société, a été complétée par l'arrivée de David de Mester, directeur général délégué des opérations industrielles. Donc ce que je propose, c'est que David, en quelques mots, se présente et je te donne la parole.
Oui, merci Benjamin, bonjour à tous. Donc je vais me présenter brièvement. Donc je m'appelle David de Mester, j'ai 56 ans, je suis marié, j'ai 4 enfants, 3 garçons et une fille qui ont entre 22 et 29 ans. Il y a un peu plus de 30 ans que je passe mes journées dans les usines pour un métier qui me passionne, celui de produire, d'animer et de diriger des équipes dans le milieu industriel. Mon expérience professionnelle à ce jour s'est construite sur 4 expériences significatives. J'ai commencé à travailler 12 ans dans la chimie fine à façon, dans un site qui a appartenu respectivement au groupe de Lagrange, Saint-Elabo, Sanofi, puis Tersenderlo Chimie. J'ai ensuite rejoint l'industrie pharmaceutique où j'ai travaillé 9 ans sur un site industriel du groupe AstraZeneca qui a été revendu 6 ans plus tard au groupe français Minachem. J'ai alors eu l'opportunité de travailler 6 ans en Belgique sur un site de chimie pharmaceutique spécialisé dans la fabrication d'anticancéreux et de molécules hautement actives, site qui a appartenu au groupe Ajinomoto puis au groupe français Minachem. C'est enfin en début 2018 que j'ai rejoint l'industrie de la biotechnologie et le site Ajinomoto d'Amiens où j'ai assuré la direction de l'usine, la vice-présidence du groupe ANE, puis sa présidence le temps d'assurer le processus de changement d'actionnaire. Et je voudrais préciser pour terminer que le projet Metex était vraiment celui qui faisait beaucoup de sens et qui de toute évidence laissait apparaître pour Ajinomoto Animal Nutrition Europe de réelles perspectives de développement et un futur garanti. Et donc c'est avec le comité de direction le projet que j'ai défendu et je suis heureux et fier aujourd'hui avec l'équipe qui m'accompagne d'avoir rejoint le groupe Metex où je donnerai le meilleur de moi-même.
Merci David pour ta présentation. Donc je propose d'aller à la slide suivante. Donc, pour ceux qui nous suivent, c'est juste un rappel. Pour les nouveaux, permettez-moi de préciser quelle est notre raison d'être. Donc, clairement, la raison d'être de Metex, c'est de contribuer à la nécessaire transition écologique en innovant pour produire autrement, et ceci par fermentation, des ingrédients fonctionnels destinés au marché de la grande consommation. Alors, qui dit produire par fermentation, ça veut dire proposer des alternatives aux procédés pétrochimiques et donc capitaliser sur la substitution des matières premières fossiles par des matières premières renouvelables et essentiellement des sucres. Bien entendu, en proposant cette alternative, nous répondons de façon plus durable à la demande croissante d'ingrédients fonctionnels meilleurs pour la santé, meilleur pour l'environnement et qui, avec un procédé de fabrication qui répond mieux aux enjeux climatiques. Et ceci, bien sûr, n'a du sens que si ces nouveaux systèmes de production sont compétitifs par rapport aux procédés conventionnels utilisés aujourd'hui. Donc, la société a été créée en 99, il y a un peu plus de 20 ans. Donc, sur ce transparent, vous avez en résumé ces 20 ans, en résumé en chiffres, de façon quantitative. Donc, essentiellement, le groupe Metex a un actif essentiellement basé sur des brevets, de la propriété intellectuelle, élément clé de compétitivité par rapport à nos compétiteurs, compétiteurs qui sont essentiellement des groupes chimistes, que ce soit dans le monde entier, asiatique, européen ou nord-américain. Un chiffre pour lequel je suis, moi, mon équipe assez fière, c'est que dans notre domaine d'activité, nous faisons partie des rares sociétés qui ont su valoriser cette propriété intellectuelle auprès de la grande industrie, et nous avons réalisé un peu plus de 70 millions de revenus en valorisant des brevets, que ce soit à travers des licences ou à travers de la cession d'actifs auprès de la grosse industrie. Notre terrain de jeu, j'ai dit, c'est la production par fermentation d'ingrédients fonctionnels, et les marchés visés pour ces ingrédients fonctionnels sont essentiellement le marché de la cosmétique, le marché de la nutrition animale, et cela représente un peu plus de 16 milliards en valeur. Enfin, et ça, on va insister au cours de cette présentation, Metex a l'ambition de se transformer d'une société de R&D dans une société industrielle. Nous avons fait déjà un investissement de près de 50 millions d'euros dans ce sens-là pour la création de notre première filiale industrielle Metex Nuvista. Et comme vous le verrez, cette transformation s'est accélérée par l'acquisition d'Ajinomoto Animal Nutrition Europe, avec la création d'une seconde filiale, Metex Nuvistago, et tout cela positionnant le groupe Metex comme une OTI française de près de 450 collaborateurs. Alors sur ce transparent, vous avez sur la gauche la reconnaissance de la société sur son plan historique, c'est-à-dire sa capacité à innover et innover dans le but de faire des procédés performants de production par fermentation. Donc nous avons eu une reconnaissance industrielle auprès de grands noms de l'industrie française et étrangère dans le monde entier, à savoir le groupe Amidonier Roquette, Evonik, un des leaders pétrochimistes dans la production d'ingrédients de performance, la société Total que tout le monde connaît, UPM qui est le numéro 2 du papier dans le monde, et tout ça a permis à la société d'acquérir une crédibilité dans sa capacité à innover de façon compétitive. Sur la droite, bien entendu, qui dit innovation, et surtout dans notre domaine, nous avons des cycles de développement qui sont relativement longs, donc depuis l'idée jusqu'à un procédé industrialisable, ce sont des cycles entre 5 et 8 ans aujourd'hui. Donc pour financer ces cycles-là, nous devons faire appel à des partenaires financiers et publics. Et aujourd'hui, Metex a parmi ses partenaires qui lui font confiance des sociétés d'investissement renommées, mais aussi des banques telles que le Crédit Agricole ou la Société Générale. Alors maintenant, notre terrain de jeu, sur ce transparent, vous avez sur la gauche le marché total des ingrédients fonctionnels et des biopolymères. Ce marché total représente en valeur un peu plus de 500 milliards d'euros de façon annuelle. Sur ces 560 milliards d'euros, vous avez 95% des ingrédients qui sont issus de la pétrochimie et seulement 5% des ingrédients qui sont issus de fermentation. Lorsqu'on regarde plus précisément ces 5% du marché issu de fermentation, on voit qu'ils adressent essentiellement les marchés de la nutrition animale, de la cosmétique, des biopolymères et de l'alimentation humaine, et en moindre mesure le marché des sucres et des édulcorants. Et l'ensemble de ces 5% donc représente en 2018 en valeur un marché d'un peu moins de 30 milliards d'euros. Maintenant, lorsqu'on regarde les drivers de ces marchés-là, on s'aperçoit que le consommateur, en tout cas dans les marchés matures tels que l'Europe, l'Amérique du Nord, change son comportement d'achat et va vers plus de produits d'origine naturelle, meilleurs pour leur santé et meilleurs en termes environnementaux, avec une empreinte carbone plus basse. Et lorsqu'on regarde précisément les segments de marché de la nutrition animale et de la cosmétique, nous avons des croissances pour satisfaire cette demande qui sont jusqu'à 3 fois supérieures de la croissance liée à la demande pour les autres types d'ingrédients. Donc clairement, Metex focalise ses innovations et sa stratégie pour adresser la forte demande d'ingrédients fonctionnels dans le marché de la cosmétique, le marché de la nutrition animale et de façon opportuniste les marchés des biopolymères. Alors pour ceux qui nous suivent depuis longtemps et que je remercie chaleureusement encore une fois, ce transparent-là, vous le connaissez, il traduit la stratégie que le groupe suit depuis fin 2016, qui vise de transformer la société d'une société purement R&D, d'innovation, à une société industrielle et commerciale. Cela s'est traduit fin décembre 2016 par la cession de l'actif lié à la production d'un acide aminé essentiel pour la nutrition animale, la méthionine, cession que nous avons faite auprès de l'industriel leader sur le marché pétrochimique Euronics, d'une valeur de 45 millions d'euros. Et avec le fruit de cette cession, nous avons investi sur 2 axes. Le premier, vers l'industrialisation d'une technologie Metex pour la production de 2 ingrédients fonctionnels, le PDO et l'acide butyrique, à travers une co-entreprise appelée Metex Novista. J'y reviendrai plus tard. Et sur un autre axe, visant le raccourcissement de notre processus d'innovation, appelé Altanouf, dans le but d'avoir une technologie à industrialiser par an à partir de 2021. Maintenant, je vous propose comme sommaire, après cette introduction de rappel, assez classique, on va parler d'abord de l'exercice 2020 et vous allez voir les avancées majeures dans l'exécution justement de notre feuille de route, de notre transformation industrielle et commerciale. Ensuite, M. Darbois présentera les résultats financiers liés à 2020. Et enfin, en troisième partie, nous parlerons de ce qui s'est passé depuis janvier 2021 et des perspectives du groupe. Donc 2020, ça a été une année, comme beaucoup d'années chez Metex, une année cruciale, une année avec des enjeux majeurs pour le groupe, visant la transformation donc, de la société vers une transformation industrielle. Et d'autre part, un enjeu lié à l'accélération de son processus d'innovation et l'agrandissement de son portefeuille de produits. Et tout ça dans un contexte très difficile que tout le monde a traversé et on continue à traverser de crise sanitaire. Donc je vais commencer par un premier point lié à Metex Novista. Donc, pour rappel, Metex Novista, donc, c'est une co-entreprise établie entre Metabolic Explorer et le fonds SPI pour société de projets industriels gérée par BPI France, dont l'objet est la production et la commercialisation de 2 ingrédients fonctionnels, à savoir le propanediol, que nous appelons communément le PDO, et l'acide butyrique. Pour rappel, dans cette première phase d'investissement d'un peu moins de 50 millions d'euros, nous produisons 5000 tonnes de PDO, essentiellement pour adresser le marché prioritaire de la cosmétique et de façon opportuniste préparer le marché des biopolymères. Et enfin, 1000 tonnes environ d'acide butyrique pour essentiellement adresser le marché de la nutrition animale. Tout ce projet a pu se financer grâce à de nombreuses parties prenantes, on va dire à partir de l'Europe, État, région, sans oublier Total, puisque nous sommes installés sur une plateforme pétrochimique opérée par Total, sur la plateforme de Carlin-Saint-Avold en Moselle. Petit point important à souligner, c'est que dans cette transformation du groupe en société industrielle et commerciale, Metex a jugé bon d'appliquer une stratégie commerciale basée sur des alliances avec des leaders qui partagent notre vision, à savoir établir et construire des offres de valeur pour répondre à cette nouvelle demande du consommateur. Et donc, pour la partie cosmétique, pour rappel, nous avons signé une alliance commerciale mondiale, exclusive, dans le domaine de la cosmétique avec le groupe DSM, qui fait partie du top 3 dans le monde, dans le domaine des ingrédients fonctionnels pour la cosmétique. Et pour la partie nutrition animale, nous avons appliqué le même modèle avec une filiale de la première coopérative agricole française, Accéréal, appelée Alinova, qui est spécialisée en nutrition animale dans l'élaboration de prémélanges pour la fabrication d'aliments pour animaux. Alors, 2020, dans un contexte, je l'ai dit, très compliqué de crise sanitaire, vous pouvez imaginer conduire un chantier qui vient de démarrer, enfin qui a démarré après un trimestre, était pas chose aisée. Et je tiens à remercier franchement les équipes de Metex Novista ainsi que leurs partenaires, puisque en 2020, nous avons pu respecter ou en tout cas avoir un impact très limité sur le planning de construction de cette crise-là et faire que nous avons pu réceptionner l'unité industrielle avant la fin de l'année, donc avant fin décembre 2020. Et ceci dans un budget qui a été très bien contrôlé par l'ensemble des équipes. En termes de portefeuille Altanouf, 2020 s'est traduite par l'entrée en démonstration d'un produit, l'acide glycolique, que nous avions annoncé. Et nous avons dans notre portefeuille de produits, de technologie Altanouf, nous avons un portefeuille diversifié pour adresser le marché de la nutrition animale et de la cosmétique. Et nous avons deux produits qui sont prêts à rentrer en phase de démonstration. Tout ça avec l'objectif d'avoir une technologie à industrialiser à partir de 2021. Afin d'accélérer et de pouvoir diversifier encore plus le nombre de technologies dans notre portefeuille, nous avons fait un placement privé en février 2020 qui a été successful pour un placement de près de 7,3 millions d'euros nets. Dans le but essentiellement de continuer et renforcer notre innovation. Quelques mots sur l'acide glycolique. Donc sur ce transparent sur la droite, et je vous invite à taper deux mots-clés sur Internet et vous verrez des vidéos de L'Oréal qui parlent et qui vantent les mérites de l'acide glycolique dans le domaine de la cosmétique, essentiellement pour la mise au point de crème de soins anti-âge. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si je prends L'Oréal, donc L'Oréal régulièrement dans la presse communique le fait qu'avant 2025, la plus grosse partie de leurs ingrédients fonctionnels dans leurs formules seront d'origine naturelle. Il faut savoir que l'acide glycolique aujourd'hui est fourni essentiellement et exclusivement, je dirais, que par des pétrochimistes. Donc il est d'origine fossile et fourni essentiellement par deux Américains, les sociétés Chemour et CrossChem. Donc Metabolic Explorer, en étant la première société à industrialiser l'acide glycolique, une technologie d'acide glycolique par fermentation, sera la première société en mesure de proposer sur le marché une offre de valeur très différenciante et surtout plus adapté aux consommateurs, encore une fois, puisqu'on pourra revendiquer le premier acide glycolique d'origine naturelle sur le marché de la cosmétique et aussi d'assurer, puisque produit en France, d'assurer une grande transparence en matière de traçabilité des matières premières et de sécurité liée aux produits. Donc l'objectif de 2021, ça a été annoncé, c'est de se mettre en situation d'industrialiser la technologie acide glycolique. Or, pour être en situation d'industrialiser cette technologie, il faut rassembler plusieurs éléments. Ça va, sans être exhaustif, mais ça va depuis les études de pré-ingénierie afin de déterminer les éléments financiers liés à la décision d'industrialisation, à savoir le capital à investir, par exemple, jusqu'à la validation des échantillons produits grâce à notre démonstrateur à Saint-Beauzire, validation faite auprès des prospects des chaînes de valeur, dans le but donc de bien valider que notre acide glycolique d'origine naturelle répond en termes de spécification et de performance aux prérequis de la cosmétique en particulier. Je propose de laisser la parole maintenant à M. Darbois, qui va nous faire donc le point sur les états financiers 2020.
Merci Benjamin. Je vais donc vous présenter les trois principaux états financiers de nos comptes consolidés en normes IFRS. Je précise que sur l'exercice 2020, notre périmètre de consolidation est constitué par la société Metex, sa filiale à 55% Metex Nuvista, et par une société qui n'a plus d'activité et qui est Metex Malaisie. Sur le premier état financier, donc le compte de résultats, quelques commentaires sur les grands chiffres. Le chiffre d'affaires en 2020 reste limité, il s'élève à 50 000 euros. 50 000 euros, c'est le revenu que Metex a dans le cadre d'un accord d'option de licence sur sa technologie MPP, accord de licence conclu avec le Finlandais UPM. L'année dernière, 2019, nous avions enregistré, en complément de ces 50 000 euros, un revenu de 300 000 euros dans le cadre de nos accords de partenariat avec le néerlandais DSM. La ligne autres produits de l'activité, à 1 850 000, correspond au montant du crédit d'impôt recherche que nos activités de R&D génèrent. Du côté des charges opérationnelles, nous observons une progression d'environ 2 millions d'euros qui se décompose de la manière suivante. Nos frais de R&D ont continué de progresser. C'est notamment lié à l'accélération de nos programmes de recherche sur l'acide glycolique. Pour la première fois, le format de cet état financier inclut une ligne coût de l'activité industrielle. C'est lié à la montée en puissance de notre filiale Metex Nuvista. Nous n'avons pas encore sur l'exercice 2020 d'activité de production, mais nous avons évidemment une structure qui a été recrutée et qui a commencé à fonctionner pour un montant de 1 712 000 euros à comparer à 719 000 euros l'année précédente. Les frais commerciaux sont en légère baisse à 1 360 000, essentiellement parce que cette baisse s'explique parce qu'en 2019, nous avions eu une activité soutenue pour nouer les partenariats PDO et acide butyrique. Les frais administratifs progressent légèrement à 2 772 000. Nous avons par ailleurs choisi d'isoler sur une ligne autres charges opérationnelles les coûts spécifiquement liés à notre projet d'acquisition d'Ajinomoto Animal Nutrition Europe pour un montant de 525 000 euros correspondant à des frais de conseil, à des frais de diligence notamment. Avec ces chiffres, le résultat opérationnel avant paiement en action s'inscrit donc à moins 10 597 000 euros. Nous avons, comme tous les ans, des charges personnelles liées au paiement en action qui s'élèvent à 182 000 euros. Et nous avons également un élément non courant, on peut dire, qui correspond à la reprise des frais de développement relatif à l'acide glycolique. Ceux qui nous suivent depuis un certain nombre d'années savent qu'en 2013, nous avions été amenés à déprécier le portefeuille, la valeur au bilan de l'activité acide glycolique. Vu les nouvelles perspectives, vu l'accélération de la R&D, vu le calendrier d'industrialisation, nous avons fait le choix donc de reprendre ces frais de R&D qui avaient été provisionnés donc pour un montant de 1 127 000. Après ces éléments, le résultat opérationnel s'inscrit donc à moins 9 650 000. Le coût de l'endettement financier net à moins 73 000, la charge d'impôt à moins 32 000, l'écart de conversion et l'écart actuariel sur les indemnités de départ à la retraite à moins 10 000 euros n'appelle pas de commentaires particuliers. Au total, nous avons donc un résultat net global qui est une perte de 9 767 000 euros. Dont une partie, 825 000 euros, correspond à la part des minoritaires, c'est-à-dire la part du fonds SPI dans notre filiale Metex Nuvista. Le résultat net part du groupe s'inscrit donc à moins 8 942 000 euros. Je passe maintenant au bilan, sur lequel, là aussi, on va retrouver l'impact de cette transformation de Metex en société industrielle. C'est visible à l'actif du bilan au niveau de nos actifs corporels, qui passent donc de 17 228 000 à 36 925 000. Cette progression est essentiellement due à la montée en régime donc, et à l'avancement du chantier de construction de Metex Nuvista. Au-dessus, les actifs incorporels, où sont enregistrés notamment et capitalisés nos dépenses de R&D sur certains sujets, continuent sa progression avec l'immobilisation de frais de R&D liés à l'acide glycolique. Les lignes actifs financiers non courants et impôts différés n'appellent pas de commentaires particuliers. Dans les actifs courants, là aussi, on voit le premier impact de la mutation de Metex, avec pour la première fois la ligne stock, puisque en fin d'exercice, nous avons commencé à constituer des stocks de matières premières pour le démarrage début 2021. Nous n'avons pas encore vraiment de compte client. Les premières facturations ont eu lieu seulement au mois de juin 2021. Les autres actifs courants enregistrent essentiellement le crédit d'impôt recherche qui est perçu donc en début 2021 et les crédits de TVA qui sont liés aux factures d'immobilisation dont nous demandons le remboursement de TVA puisque nous sommes structurellement créditeurs. La trésorerie s'élève à 18 181 000 euros à comparer à 26 640 000 euros l'an dernier et on verra dans l'état suivant les raisons de cette variation. Au passif du bilan, le capital social progresse donc de 2 326 000 à 2 781 000. Ça, c'est le résultat pour l'essentiel de l'augmentation de capital qui est intervenue en février 2020. La part des réserves, enfin les réserves donc part du groupe et part des minoritaires évolue en fonction des résultats des exercices antérieurs d'une part et de l'impact des augmentations de capital soit au niveau de la filiale soit au niveau de la maison mère. Les capitaux propres progressent ainsi de 44 millions 85 000 euros en 2019 à 48 millions 195 000 euros à fin décembre 2020. Les dettes et provisions non courantes sont en progression d'environ 7 millions d'euros. C'est essentiellement lié à la mise en place, que je vous montrerai plus en détail tout à l'heure, à la mise en place d'un prêt PGE sur la maison mère pour à peu près 5 millions d'euros et d'un emprunt PAI pour 2 millions d'euros au niveau de la filiale Metex Nuvista. Les fournisseurs d'exploitation progressent fortement, c'est essentiellement lié à l'activité industrielle sur Nuvista. Les fournisseurs d'immobilisation, même chose. Les autres passifs courants sont constitués de différentes provisions, ils n'appellent pas de commentaires particuliers. La part court terme de nos dettes bancaires à moins d'un an reste voisine de 1 100 000. Elle est de 1 186 000 euros à fin décembre 2020. Voilà donc les principaux éléments de bilan. Combinant maintenant ces éléments de résultats et de bilan, j'en viens au tableau de financement et de trésorerie de la société. Je ne vais pas commenter l'intégralité des chiffres, je vais juste me focaliser sur les grands flux par nature. Les flux nets de trésorerie générés par l'activité que vous avez en milieu de tableau, qui étaient de moins 7 667 000 l'an dernier, en 2019, s'inscrivent à moins 10 631 000 euros sur l'exercice 2020. C'est essentiellement lié à la baisse de la capacité d'autofinancement, avec les résultats que nous avons vus, et également à une variation plus forte du besoin en fonds de roulement lié à l'activité. Le flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement s'inscrit, lui, à moins 11 616 000. C'est un poste qui enregistre différents éléments, donc en charge, en dépenses, les acquisitions d'immobilisation s'élèvent à 23 119 000, montant qui est compensé d'une part par le CIR et les subventions d'investissement pour 2 7 millions, et d'autre part par la trésorerie nette affectée aux acquisitions et cessions de filiales. C'est une ligne qui enregistre les apports de BPI France à la filiale Metex Nuvista. Sur les flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement, donc 13 797 000 euros à comparer à 872 000 euros sur l'exercice antérieur, nous retrouvons donc la ligne augmentation de capital pour 6 799 000. Nous retrouvons la ligne nouveaux emprunts dont je vous ai parlé, 7 683 000. Les restes correspondent à des intérêts payés et à des remboursements d'emprunts. Quand on prend en compte pour moins 10 000 euros l'incidence des variations des cours des devises, nous avons une variation de trésorerie donc qui s'inscrit à moins 8 460 000. Je voudrais maintenant sur le slide suivant souligner les quelques éléments clés de manière synthétique. Donc les éléments clés au plan financier de l'exercice, ça a été cette levée de fonds d'un montant brut de 7 millions 3, 6,8 millions en net, donc pour accélérer l'industrialisation des produits de la plateforme Altenouv, en particulier de l'acide glycolique. Les nouveaux emprunts, donc 5,7 millions, qui ont été reçus en 2020 dans le cadre d'un PGE que nous avons mis en place avec notre pool bancaire. Le montant total est de 6,3 millions. Le solde a été reçu début 2021. Sur Metex Nuvista, qui n'était pas éligible au mécanisme PGE, nous avons bénéficié d'un prêt moyen terme de la part de BPI France pour 2 millions d'euros. La filiale Metex Nuvista, comme on l'avait dit l'an dernier, est financée en trois tranches. 2020 a vu le versement de la troisième et dernière tranche pour 10 millions 9, dont 6,750 versés par le fonds Espagne. J'ai commenté les subventions d'investissement à hauteur de 2,7 millions, avec des décaissements à hauteur donc de 16 millions sur les travaux de construction de Metex Nuvista. Au total, donc, cette trésorerie, je le répète, s'élève à 18,2 millions d'euros à fin décembre 2020. Je souligne également, comme l'a dit Benjamin Gonzalez, que l'impact de la crise Covid a été extrêmement limité dans nos comptes, d'une part, et d'autre part, je souligne également que, bien sûr, la démarche de Metex s'inscrit dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises pour lequel des plans d'action sont en cours pour améliorer notre performance sur cet axe-là. Je passe maintenant à nouveau la parole à Benjamin Gonzalez pour le point sur la situation actuelle 2021 et les perspectives du groupe.
Merci beaucoup Antoine, et comme d'habitude, merci beaucoup pour ta clarté entre autres pour commenter cette partie financière. Maintenant, je vous propose de parler du futur, futur 2021 et puis quelques perspectives. D'abord, l'année 2021 a commencé par un immense challenge, puisque une fois une construction d'usine finalisée et réceptionnée, eh bien, il n'y a plus qu'à la faire marcher. Et croyez-moi que pour beaucoup, c'était pas un petit challenge, puisque cette étape-là s'accompagne de beaucoup de risques. Est-ce que Metex est capable d'industrialiser ces technologies? Est-ce que ces technologies ont une réalité industrielle? Est-ce que nous sommes assez bien formés pour le faire? Est-ce que nous avons les compétences pour le faire, etc. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes quand même très fiers avec réceptionné cette usine en décembre, la mise à nous en production fin du premier trimestre, et les premières commercialisations de l'eau fin du second semestre. Et ça, je peux vous dire que ce n'était pas un petit challenge. Mais en conclusion, je remercierai surtout les équipes qui ont su recruter les bonnes personnes, les former, transférer les compétences depuis Metex vers Metex Novista, les équipes de Metex Novista, et souligner le fort engagement des équipes nouvelles de Metex Novista pour cette réussite dans l'atteinte de ce premier milestone clé pour l'entreprise. Puisque aujourd'hui, nous pouvons conclure que Metex a la capacité d'industrialiser ces technologies puisque nous l'avons fait. Donc, première vente, je disais, et ça c'est le plus important dans une transformation d'une société innovante, passer d'une société d'innovation à une société industrielle et surtout commerciale. Et donc nous avions pour objectif de réaliser une première vente avec le grade cosmétique du PDO, qui est le grade le plus compliqué en termes de pureté à obtenir pour adresser ce marché-là. Donc ça, nous avons réussi à produire nos premières dizaines de tonnes il y a quelques semaines maintenant. Et grâce à notre partenaire DSM, les premières commercialisations ont eu lieu. Pour rappel, nous avons une alliance commerciale exclusive worldwide, donc dans le monde entier. Nous avons eu des échantillons qui sont partis dans... Enfin, des échantillons, pas des échantillons, des locations qui sont partis dans le monde entier. Donc on peut dire que dans quelques semaines, mois, nous aurons les premières crèmes de soins qui contiendront du PDO fabriqué en France, en Moselle, grâce à notre technologie. La même chose du côté PDO grade industriel. Pour rappel, dans cette première phase d'investissement, nous préparons le marché des biopolymères et la priorité est le marché des biopolymères de spécialité, notamment dans l'utilisation du PDO pour faire des polymères élastomériques qui sont utilisés, par exemple, dans les semelles de chaussures de sport. Et nous avons là aussi une grande fierté, puisque un des leaders européens dans le domaine de la chaussure de sport durable et de performance, à savoir l'entreprise Vaudé, s'approvisionne maintenant au PDO, du côté du PDO de Metex Novista, dans la mesure de pouvoir marketer auprès de leurs clients une origine sécure, française, contrôlée, de sourcée, de PDO, pour la réalisation de leurs polymères. Enfin, un fait aussi, un autre fait majeur du premier semestre, c'est, je vous ai dit, nous avons l'objectif d'industrialiser une technologie par an. Donc, vous avez compris que la prochaine technologie concerne l'acide glycolique, où nous travaillons pour être en situation de prendre une décision fin 2021. Et donc, pour l'industrialisation de cette technologie en France, nous avons obtenu un soutien massif de l'État français de près de 10 millions d'euros pour soutenir cette industrialisation. Et ce soutien se situe dans le contexte du plan de relance français consécutif au constat suite à la crise sanitaire de la perte de certaines filières souveraines dans des domaines clés, notamment en santé et nutrition animale et humaine. Et donc l'acide glycolique qui est utilisé pour des applications médicales dans le but de faire des polymères de performance pour la fabrication de fils chirurgicaux auto-résorbables a été identifié comme stratégique et surtout comme important d'assurer cette filière-là pour approvisionner des applications médicales avec cet ingrédient fonctionnel. L'autre point majeur du premier semestre 2021, et ça, tout le monde a pu s'en rendre compte, ça a été donc l'acquisition d'Ajinomoto Animal Nutrition Europe. Laissez-moi peut-être revenir, faire un peu d'histoire sur cette acquisition pour qu'on comprenne bien que cette acquisition se situe en termes de timing au bon moment pour implémenter la stratégie industrielle de Metex. Donc, à chaque industrialisation, si on prend le modèle de Metex Novista, sur le plan financier, ça veut dire que, grosso modo, pour faire 1000 tonnes d'ingrédients, nous avons besoin d'investir près de 10 000 euros la tonne d'ingrédients. Donc, il était important d'innover en termes de modèle pour baisser le besoin capitalistique pour pouvoir industrialiser les autres technologies du portefeuille. Donc, parmi les modèles étudiés, nous avions un modèle de façonnage et dans le cadre de l'implémentation de ce modèle, nous nous sommes rapprochés de plusieurs industriels localisés en France et, on va dire, dans les pays limitrophes, dans le but de discuter de la faisabilité de mettre en place un modèle utilisant les capacités existantes de l'industriel. C'est dans ce cadre que nous avons rencontré les équipes d'Ajinomoto Animal Nutrition Europe. Et de fil en aiguille dans nos discussions, il s'est avéré que l'actionnaire japonais souhaitait céder cette société, donc à savoir l'actif amiénois pour la production par fermentation d'acides aminés pour la nutrition animale et aussi le business, donc les forces commerciales liées à la vente en Europe de cette gamme d'acides aminés. Et donc c'est dans ce cadre-là que Metex s'est positionné pour la reprise de cette activité, ayant la conviction que d'une part le business des acides aminés fait du sens sur le plan stratégique pour devenir un leader dans le domaine des ingrédients fonctionnels, d'une part, et d'autre part, et ça c'est le pourquoi nous avons rencontré Ajinomoto, pour limiter le besoin capitalistique lié à l'investissement de nos technologies. Donc quelques mots sur Ajinomoto Animal Nutrition Europe. Donc tout d'abord, c'est le site industriel de fermentation pour la production d'acides aminés le plus grand en Europe. Juste un chiffre, à lui tout seul, il consomme à peu près 5% du sucre produit dans un rayon de 100 km autour de l'usine. Donc c'est là où il y a le sucre français, en Picardie. Point numéro 2, Ajinomoto Animal Nutrition Europe produit une gamme très large d'acides aminés, essentiels pour la nutrition animale, avec trois acides aminés qui représentent aujourd'hui près de 90% de l'activité de cette société, à savoir la lysine, la valine et le tryptophane, et ensuite portefeuille élargi à 3 autres acides aminés de spécialité pour combler l'activité du site à 100%. Enfin, nous avons des licences donc exclusives pour continuer à produire cette gamme d'acides aminés, ceci sur un marché restreint à l'Europe et ceci dans le domaine exclusif de la nutrition animale. Le prix d'acquisition a été de 15 millions d'euros, essentiellement parce que pour pouvoir garantir dans le futur la compétitivité de ce site, il était nécessaire que le repreneur ait investi plusieurs dizaines de millions d'euros en amont et en recherche et développement pour être en mesure d'une part d'assurer la compétitivité des technologies utilisées, donc les optimiser, et d'autre part de continuer une stratégie visant l'élargissement de la gamme de produits en nutrition animale et aussi l'élargissement de la gamme de produits dans d'autres secteurs applicatifs que la nutrition animale et en particulier, vous l'avez compris, la cosmétique. Maintenant, je vais laisser la parole à David qui, dans sa présentation, vous l'avez compris, a dirigé cette usine pendant plusieurs années. Il va vous expliquer les complémentarités vues des deux parties entre Metex et Metex, Nuvista Go, nouveau nom pour Ajinomoto Animal Nutrition Europe.
Donc effectivement, en complément des informations sur cette reprise que vient de détailler Benjamin, la reprise d'Ajinomoto Animal Nutrition Europe pour Metex était le projet qui était soutenu par le comité de direction d'ANE et celui pour lequel nous nous sommes battus. Donc aujourd'hui, ce projet devenu réalité, par ses organisations et ses compétences très complémentaires, porte l'évidence d'un deal industriel gagnant. Donc ANE, devenu aujourd'hui Metex Novistago, coupé de la R&D du groupe Ajinomoto, avait de manière évidente besoin de retrouver un repreneur fort sur les aspects de la R&D, ce qu'apporte fortement Metex avec une recherche et développement à l'état de l'art qui allait forcément nous manquer. Donc, les technologies d'Altanov basées sur les recherches autour de la souche E. coli adaptées, qui sont parfaitement adaptées à notre outil industriel, une expérience et des savoir-faire, effectivement, pour préserver la compétitivité de nos technologies sous accord de licence, la possibilité d'un démonstrateur industriel qui vient en parfait soutien de la production, était une évidence sur ces aspects recherche et développement. Pour la partie industrialisation, le site d'Amiens apporte un outil industriel qui est compétitif, et une capacité de production de 5000 m3 de bioréacteurs, donc c'est une capacité unique en France et en Europe, et nous sommes équipés d'une station d'épuration qui est équivalente à une ville de 250 000 habitants et qui permet de traiter l'intégralité des effluents du site, et ceci en exclusivité. Une expérience en support fort de Metex Novista, sur cette partie aussi industrialisation. Et un dernier point important pour le groupe Metex, c'est un foncier qui est disponible sur l'usine avec plusieurs hectares disponibles pour de futurs investissements et accueillir des ateliers autour de la purification principalement des nouveaux produits que apportera la recherche et Altanov. Enfin, le troisième point qui complète cette complémentarité forte, ce sont l'apport des forces commerciales d'Ajinomoto Animal Nutrition Europe, de par ses compétences et son réseau historique, donc un solide réseau, une logistique importante aussi autour des produits finis et une politique d'achat de nos matières premières et la possibilité d'étendre son périmètre. Énergie évidente aussi avec, on l'a entendu tout à l'heure, l'acide butyrique qui est produit aujourd'hui par Metex Novista. Donc au final, sur ces trois piliers que sont la R&D, l'industrialisation et l'apport des forces commerciales, Novistago, dans mes textes, constitue un groupe forcément bien renforcé et dans lequel nous avons beaucoup, beaucoup d'espoir.
Merci David. Et je rajouterai une complémentarité dans les équipes, hein, très clairement, de management, puisque ça ne vous aura pas échappé non plus. Quelques semaines après l'acquisition officielle de Ajinomoto Animal Nutrition Europe, nous avons dû faire face à une crise industrielle. Et je tiens à souligner là aussi le professionnalisme de tous dans la capacité à gérer cette crise. Et là, je vous parle avec tous les retours qu'on a eus des parties prenantes, que ce soit clients ou fournisseurs, où on a su gérer cette crise de façon très professionnelle et en moins de 15 jours, reprendre une activité à 100% de la production des acides aminés sur le site d'Amiens. Alors une fois qu'on a dit ça, il est clair que Metex a entamé donc une transformation d'une boîte de R&D à une société industrielle et commerciale avec Metex Novista. Là, nous avions un groupe avec cette première filiale qui était en quelques chiffres de 120 collaborateurs avec une connotation encore très très forte en R&D avec 10 procédés en développement. Et deux produits déclinés en quatre grades industriels à commercialiser avec une capacité dans une première phase de 6000 tonnes. Avec l'acquisition d'Ajinomoto Animal Nutrition Europe, maintenant Metex Novistago, le groupe Metex se retrouve avec deux filles industrielles et clairement cette acquisition change complètement la donne du groupe et accélère de façon significative sa stratégie pour devenir une ETI européenne leader de la fermentation industrielle dans le domaine des ingrédients fonctionnels pour la nutrition animale et pour la cosmétique. Et donc ça commencera bien sûr en gardant notre position de leader dans le domaine des acides aminés produits par fermentation et en renforçant cette position de leader à la fois sur le plan compétitif des technologies et à la fois sur le plan de la gamme de produits qui va s'élargir. Et tout ça pour devenir un groupe avec un chiffre d'affaires d'un peu plus de 200 millions d'euros, avec des procédés en développement un peu plus grands, puisque nous avons aussi d'autres technologies qui ont fait l'objet de cette acquisition-là, et un groupe constitué d'un peu plus de 450 collaborateurs. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Antoine Darbois, qui va traduire un peu ces perspectives-là de façon plus précise en termes financiers.
Merci Benjamin. Je me propose de vous commenter les états financiers pro forma qui ont été établis sur le nouveau groupe Metex en intégrant l'ancien AANE que nous appelons maintenant Novista Go. Et dans le cadre d'un exercice qu'on appelle le PPA, le Purchase Price Allocation, donc l'allocation comptable du prix d'achat. C'est un exercice comptable toujours un peu délicat que nous avons confié à un cabinet comptable international de premier plan. Les commentaires et les chiffres seront peut-être un petit peu compliqués. C'est pour ça que nous avons fait le choix de mettre en ligne sur notre site internet l'ensemble du détail de ces comptes pro forma. Ceux d'entre vous qui souhaitent ce niveau de détail trouveront dans ce document toutes les explications. Vous avez à l'écran le compte de résultat pro forma 2020 avec trois colonnes. La colonne du milieu correspond à l'ancien périmètre Metex et sa filiale Novista. Ce sont les chiffres que nous avons commentés il y a un moment. À droite, vous avez les comptes de AANE sur l'exercice pro forma 2020. avec un chiffre d'affaires, donc comme on disait, supérieur à 200 millions d'euros, donc 201 503 000, un EBITDA légèrement positif à 6 027 000 euros et un résultat opérationnel courant à l'équilibre à 808 000 euros. Par contre, au niveau des charges non courantes, cet exercice 2020 a été marqué sous l'actionnariat d'Ajinomoto par une charge de dépréciation des actifs extrêmement significative, puisqu'elle s'est élevée à un montant de 125 271 000 euros. Cet exercice d'impairmentes est un exercice nécessaire que toutes les sociétés cotées font passer à leurs actifs. Compte tenu des perspectives d'alors d'Ajinomoto, compte tenu de son souhait de vendre, le business plan qu'avait préparé Ajinomoto pour sa filiale montrait un déficit de valeur par rapport à ses actifs, avec donc un résultat net de moins 124 454 000 pour l'ancien AAN. Quand on combine donc la colonne du milieu et la colonne de droite, on obtient à gauche la reconstitution d'un METEX consolidé intégrant ANE. Alors attention, pour beaucoup de lignes, on ne peut pas faire une simple addition. Il y a des écritures de consolidation, des retraitements comptables qui font que la colonne de gauche n'est pas nécessairement égale à la somme des deux autres colonnes. Donc le chiffre d'affaires consolidé serait en 2020 de 201 553 000 euros. L'EBITDA, qui est l'élément financier que nous suivons principalement, aurait été négatif de 7 134 000 et le résultat opérationnel courant négatif de 11 167 000. Au niveau des charges et des produits non courants, vous voyez ici le reflet du prix d'acquisition de 15 millions d'euros, qui est substantiellement inférieur à la situation nette que l'on verra sur le slide suivant au bilan. Donc ça conduit à constater un écart d'acquisition négatif, ce qu'on appelle un « badwill », et qui donc conduit à un produit non courant très significatif, et que l'on voit ici, toutes sources confondues, à 84 980 000. Et donc, le résultat net pour cet exercice très particulier, pro forma 2020, aurait été de 73 717 000, évidemment, avec dans ce chiffre-là, un produit non récurrent très significatif. Je passe maintenant à la partie bilan. Donc, même logique des trois colonnes. La colonne du milieu correspond au chiffre de bilan que je vous ai commenté plus tôt. Et la colonne de droite correspond au bilan au 31-12-2020 d'ANE. Quelques commentaires. Vous voyez les actifs non courants à 58 915. C'est pour l'essentiel les immobilisations nettes du site d'Amiens. Et je rappelle que ce chiffre doit se comprendre net après provision de 125 millions d'euros pour dépréciation de cette valeur. Les actifs non financiers courants, essentiellement les stocks et les comptes clients pour 95 552 000, et les actifs financiers courants, essentiellement la trésorerie disponible, de 23 513 000. Les passifs non courants correspondent pour l'essentiel à des provisions type indemnité de départ à la retraite. Les passifs non financiers courants correspondent pour l'essentiel à des éléments de BFR, donc notamment les postes fournisseurs. Les passifs financiers courants correspondent à des découverts, donc à mettre en relation avec les actifs financiers courants. Et enfin, le solde, donc la situation nette, les capitaux propres, pour une valeur de 114 315 000 euros. Et donc ces 114 millions doivent être mis en regard avec les 15 de prix d'acquisition de Metex. Et cette différence d'à peu près 100 millions d'euros explique l'information donnée par le japonais Ajinomoto, qui a indiqué avoir passé une provision complémentaire de dépréciation de ces titres pour 100 millions d'euros. Quand on combine les colonnes du centre et de droite, on arrive à ce qu'aurait été un bilan fin décembre 2020 du nouveau Metex, avec donc des actifs non courants, essentiellement les immobilisations d'Amiens, plus les Metex Nuvista, plus les actifs incorporels de Metex, donc à 92 884 000. Les actifs non financiers courants, 108 millions. Les actifs financiers courants, donc la trésorerie, 33 millions 693. Les passifs non courants, essentiellement, donc les provisions de Nuvistago plus l'endettement et les provisions de Metex et Metex Nuvista, donc 26 millions 838 000. Les passifs non financiers courants, 57 millions 279 pour l'essentiel les fournisseurs et autres passifs courants. Et les passifs financiers courants correspondent, pour l'essentiel à ceux d'ANE, 19 357 000. Pour des capitaux propres consolidés de 131 313 000. J'en viens maintenant au slide suivant qui donne des perspectives financières à la fois à court terme sur notre exercice 2021 et des perspectives à moyen terme sur l'exercice 2026. Sur l'exercice 2021, nous prévoyons un chiffre d'affaires de 160, qui devrait être, pardon, supérieur à 170 millions d'euros pour un EBITDA que nous qualifions de proche de l'équilibre. Alors, un commentaire sur ce chiffre d'affaires et sur cet EBITDA 2021. Le chiffre d'affaires supérieur à 170 millions d'euros prend en compte à la fois la contribution de Metex Nuvista, en Lorraine à Carlin, et prend en compte, depuis la date du closing, donc depuis fin avril, prend en compte le chiffre d'affaires de Nuvistago. C'est-à-dire que Nuvistago va contribuer à 8 mois de son chiffre d'affaires. Ce qui explique que le chiffre d'affaires supérieur à 170 millions soit évidemment inférieur au pro forma 12 mois de 2020 qui était à 201 millions. C'est important de souligner que 170 millions minimum se rapporte à 8 mois seulement d'exploitation de Metex Nuvistago. Un commentaire également sur l'EBITDA. Quand nous disons qu'il est proche de l'équilibre, donc c'est un EBITDA qui sera voisin de la somme Metex périmètre historique et de Nuvistago. L'EBITDA prévisionnel de Metex périmètre historique sera voisin de ce qu'il était en 2020, puisque nous n'aurons pas la pleine contribution de Metex Nuvista, qui n'aura pas encore forcément atteint son équilibre en génération d'EBITDA sur l'exercice 2021. On peut tabler sur un EBITDA de Metex périmètre historique voisin de moins 9, moins 10 millions d'euros. Ce qui signifie que notre estimation de l'EBITDA de Metex Nuvistago sera voisine de plus 10 millions d'euros pour les 8 mois de 2021. Nous avons publié un communiqué de presse dans lequel nous avons indiqué que le coût de l'incident industriel que nous avons vécu a un impact d'une part de 1 million d'euros pour les dommages directs liés à l'incident, et d'autre part une perte d'exploitation d'environ 7 millions d'euros. Donc un calcul simple montre que sur ces 8 mois de fonctionnement de Nuvistago, hors incident, nous aurions généré environ 18 millions d'EBITDA. Ce qui signifie que nous sommes sur un rythme annuel, à nouveau hors incident, de 27 millions d'euros d'EBITDA pour Metex Nouvistago. C'est le chiffre qu'il y a lieu de comparer aux 6 millions 27 000 que nous avons indiqué pro forma 2020. C'est le signe, notamment, que les coûts des acides aminés sont aujourd'hui à un niveau qui est significativement supérieur à ce qu'ils étaient au cours de l'exercice 2020. Voilà pour 2021. Un mot sur 2026. Compte tenu du plan de transformation que nous envisageons sur le site d'Amiens, ce chiffre d'affaires devrait être supérieur à 300 millions d'euros. Et compte tenu là aussi de la progression de la productivité et avec un plan d'affaires qui inclut une baisse probable du prix des acides aminés, nous prévoyons un niveau d'EBITDA supérieur à 14% du chiffre d'affaires. Voilà les perspectives telles que nous pouvons les commenter et telles qu'elles ont été décrites dans notre dernier communiqué de presse.
Merci Antoine pour ces éléments financiers. Donc bon là vous avez un transparent sur le cours de bourse. Quoi dire sur ce transparent là? Vous savez que c'est pas à moi à commenter le cours de bourse, mais de dire qu'il a fortement progressé. Donc ça veut dire que notre stratégie a été bien accueilli par le marché. Et puis bon, ça vous a pas échappé que ces derniers 15 jours, nous avons été fortement attaqués par un hedge fund américain qui a fait ses déclarations à l'AMF et qui vont à découvert en fait. Donc voilà. Mais après, j'ai pas autre chose à rajouter. Merci beaucoup pour toute l'équipe pour cette présentation claire. Je propose maintenant de donner la parole au commissaire aux comptes pour qu'ils nous fassent part de leurs observations. Donc, je ne sais pas qui veut commencer, Yann ou Emmanuel.
C'est Emmanuel, c'est moi qui vais attaquer.
Ok.
Donc, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, donc le Collège des commissaires aux comptes va vous présenter la synthèse des travaux menés sur l'exercice 2020 tel que nous l'avons retranscrite dans les différents rapports établis à votre attention. Donc, ces rapports sont au nombre de 9, un sur les comptes annuels, un sur les comptes consolidés, un rapport sur les conventions réglementées et 6 sur des autorisations financières. Donc, je vais commencer par le rapport sur les comptes annuels. Dans ce rapport, nous certifions que les comptes annuels de la société Metabolic Explorer, qui sont au regard des règles et principes comptables français, sont réguliers et sincères. Nous portons également à votre connaissance le point clé de l'audit relatif au risque d'anomalie significative. Il concerne donc l'évaluation des actifs incorporels relatifs aux frais de développement. Et donc notre rapport détaille les contrôles qui ont été effectués, destinés notamment à nous assurer qu'aucune dépréciation complémentaire n'apparaîtrait nécessaire au 31 décembre 2020. Les vérifications spécifiques qui portent notamment sur les informations données dans le rapport de gestion et les autres documents qui sont adressés aux actionnaires n'appellent pas de commentaires particuliers. Enfin, nous attestons de l'existence dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise des informations requises dans le Code de commerce, qui portent notamment sur les avantages versés aux mandataires sociaux et sur les éléments susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique d'achat ou d'échange. Et un dernier point, nous vous confirmons que le rapport destiné à votre comité d'audit lui a bien été remis. Ensuite, en ce qui concerne le rapport sur les comptes consolidés, dans ce rapport, nous certifions que les comptes consolidés du groupe Metabolic Explorer sont, au regard du référentiel IFRS tel qu'adopté par l'Union européenne, réguliers et sincères. Nous portons également votre connaissance dans notre rapport du point clé de l'audit identifié qui concerne l'évaluation des actifs incorporels relatifs aux frais de développement. De la même manière que dans le rapport sur les comptes annuels, notre rapport détaille les contrôles effectués, destinés notamment à nous assurer qu'aucune dépréciation complémentaire n'apparaît nécessaire au 31 décembre 2020. Par ailleurs, nous n'avons pas d'observation à formuler au titre de la vérification des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe. Et enfin, pour votre information, Metabolic Explorer a décidé d'utiliser la possibilité de reporter la première application du format d'information électronique unique dit ESEF. Donc, en conséquence, notre rapport ne comporte pas de conclusion sur le respect de ce format. Je vais passer la parole à mon confrère pour les autres rapports, et notamment le rapport sur les conventions réglementées.
Oui, merci Emmanuel. Donc, effectivement, au niveau du rapport spécial sur les conventions réglementées, nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune écoutée au cours de l'exercice, qui serait utilisé à votre approbation. Nous vous informons également qu'il ne nous a été donné d'aucune avis d'aucune convention déjà approuvé et dont l'exécution se serait poursuivie. Enfin, en ce qui concerne les petits rappels sur les autorisations financières, donc comme chaque année nos rapports, nous n'avons pas d'observation particulière apportée à votre connaissance. Nous retirons simplement votre attention sur le rapport relatif aux résolutions 14 et 15. Sur l'émission d'actions et autres valeurs mobilières avec maintien ou suppression du DPS, qui sont réservées à une catégorie de personnes laquelle pourrait être considérée comme large au regard de l'article L225-138 du Code de commerce.
Ok, merci. Merci Monsieur Charnavel et Monsieur Clavery pour vos observations. Donc là, petit point, on peut passer aux questions des actionnaires. Donc juste pour vous informer que cette année, on n'a eu aucune information écrite des actionnaires qui nous soit parvenue. Donc je vous propose de passer directement au vote des résolutions. Je donne la parole à Catherine Pennec, qui va reprendre l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire pour passer au vote.
Merci Benjamin. Donc Benjamin le rappelait au démarrage de cette Assemblée, nous avons un quorum obtenu avec 8 188 771 actions qui représentent 27,30% du capital en actions et représentant 9 546 709 voix, soit 30,24% du nombre total des voix. Donc nous allons démarrer par les résolutions d'Assemblée générale à titre ordinaire. La première portant sur l'approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020 et qui donne quitus de leur gestion à tous les membres du conseil d'administration et quitus au commissaire aux comptes. Cette résolution est adoptée à 100% des voix exprimées. La deuxième résolution porte sur l'approbation des comptes consolidés de la société relatifs au même exercice clos au 31 décembre 2020. Et cette résolution est également adoptée avec 100% des voix exprimées. La troisième résolution porte sur l'affectation du résultat de la société relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2020. Et donc, il s'agit d'affecter effectivement la perte constatée au compte de ressort en niveau. Et cette résolution est adoptée avec 99,99% des voix exprimées. La quatrième résolution porte sur l'approbation des conventions réglementées visées aux articles L225-38 et suivants du Code de commerce. Résolution adoptée avec 99,99% des voix exprimées. La cinquième, qui porte sur l'autorisation donnée au Conseil d'administration aux fins de procéder à un programme de rachat d'actions propres représentant un maximum de 10% du capital de la société. Cette cinquième résolution est adoptée avec 95,44% des voix exprimées. La sixième résolution, c'est celle qui porte sur la promotion de la politique de rémunération du président directeur général et qui est adoptée avec 90,85% des voix exprimées, suit la 7e résolution qui, elle, porte sur la politique de rémunération du directeur général délégué, qui est adoptée avec 90,85% des voix exprimées, puis avec la 8e résolution qui, celle-ci, porte sur la politique de rémunération des administrateurs et notamment la rémunération fixe annuelle des administrateurs et qui est adoptée à 99,13% des voix exprimées. Toujours dans le même registre, l'approbation avec la 9e résolution des rémunérations versées et ou attribuées aux mandataires sociaux au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 qui est adopté à 99,97% des voix exprimées. Et enfin, pour cette AG ordinaire, la 10e résolution qui approuve les éléments fixes, variables, exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés et ou attribués au président-directeur général au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020, qui est adopté à 90,85% des voix exprimées. Nous passons donc maintenant aux résolutions à titre extraordinaire, qui sont des résolutions qui portent essentiellement sur les opérations de capital, qui sont soutien des opérations et utiles lorsque elles sont utilisées pour le soutien du développement des activités de la société. Donc, des délégations de compétences avec la 11e résolution donnée au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital de la société, soit par émission d'actions ordinaires de toute autre valeur mobilière, soit par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres, avec maintien du droit préférentiel de souscription. Et cette 11e résolution est adoptée à 100% des voix. La 12e résolution porte, elle, sur la délégation de compétences donnée au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social de la société par émission d'actions ordinaires ou de toute autre valeur mobilière avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, cette fois-ci par offre au public. Cette délégation est adoptée avec 90,49% des voix exprimées. La 13e résolution, c'est une délégation de compétences au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social de la société par émission d'actions ordinaires ou de toute autre valeur mobilière avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par une offre visée à l'article L411-2 premier du Code monétaire et financier qui vise les investisseurs qualifiés ou cercle restreint d'investisseurs. Et cette 13e résolution est adoptée à 89,27% des voix exprimées. La 14e résolution, c'est également une délégation de compétences au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital de la société par émission d'actions ordinaires ou toute autre valeur mobilière avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, cette fois-ci au bénéfice d'une catégorie de personnes qui sont les partenaires industriels et financiers. Et cette résolution mise aux voix est adoptée avec 89,27% des voix exprimées. La 15e résolution, c'est une délégation de compétences consentie au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'émission d'actions ordinaires ou de toute autre valeur mobilière, avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans la limite de 15% de l'émission initiale. Cette résolution est adoptée avec 89,25% des voix exprimées. La 16e résolution, délégation de compétences consentie au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou de toute autre valeur mobilière en rémunération d'apport en nature consentie à la société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires. Cette résolution est adoptée avec 99,18% des voix exprimées. La 17e porte sur la délégation de compétences consentie au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou de toute autre valeur mobilière en rémunération d'apport effectué dans le cadre d'une offre publique d'échange initiée par la société avec cette fois-ci suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires Et cette résolution est adoptée avec 89,28% des voix exprimées. La 18e résolution porte sur la délégation de compétences au conseil d'administration en vue d'émettre des bons de souscription d'actions permettant de souscrire à des conditions préférentielles des actions de la société en cas d'offre publique d'achat ou d'offre publique d'échange sur la société. Et celle-ci est adoptée avec 82,96% des voix exprimées. La 19e, délégation de compétences au conseil d'administration en vue d'émettre des bons de souscription d'actions autonomes de la société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au bénéfice d'une catégorie de personnes, partenaires mandataires. Résolution adoptée à 89,23% des voix exprimées. La 20e, c'est celle qui porte sur la délégation de compétences données au Conseil en vue d'augmenter le capital social de la société au profit des salariés adhérents à un plan d'épargne entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription dans les conditions prévues aux articles L225-129-6 et L225-138-1 du Code de commerce et aux articles L3332-1 et L3332-18 et suivants du Code de travail. Cette résolution est rejetée avec 46,60% des voix exprimées. La 21e résolution porte sur autorisation donnée au conseil d'administration en vue de procéder à l'annulation des actions propres acquises dans le cadre du programme de rachat d'actions par voie de réduction de capital social de la société. Résolution adoptée avec 76,33% des voix exprimées. Et enfin, la dernière est la résolution qui donne pouvoir au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présents à l'effet de remplir toutes les formalités légales de publicité. Donc c'est la résolution de pouvoir pour formalité qui est adoptée à 100%.
Merci beaucoup Catherine. Merci à l'ensemble des actionnaires qui ont pu se connecter. Et donc je lève la séance, l'ordre du jour étant épuisé. Et je vous dis à très bientôt et j'espère de tout cœur de façon présentielle. Merci, au revoir.
Au revoir.